crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour et bienvenue dans votre série de l'été, Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Nous allons nous plonger ensemble dans de grandes affaires criminelles françaises, du 19e et du 20e siècle. Je vous emmène à Paris, au 36 Quai des Orfèvres. Je vous emmène à Paris et dans la France entière. Certaines d'entre elles sont des affaires célèbres. Toutes ont défrayé la chronique et portent leur part d'une histoire plus vaste. Bien plus qu'un crime, bien plus qu'un criminel, c'est la société. L'histoire des hommes et des femmes dans leur époque qu'elle raconte. Le dossier que je vais ouvrir aujourd'hui avec vous n'est pas un dossier facile. Enfin, je veux dire, pas facile à raconter. Et peut-être, pour certains, pas facile à entendre. Il existe des histoires plus douloureuses que d'autres, plus sensibles. Oui, je ne vous cache pas que c'est le genre d'histoire qui me touche, comme beaucoup d'entre vous sans doute. L'enquête dont nous allons suivre le cheminement porte sur la disparition d'un enfant. Il s'agit de ça, d'une disparition et des moyens mis en œuvre pour le retrouver, mais aussi autre chose. Il s'agit de nous permettre de comprendre à quelles difficultés font face la police et la justice. Appréhender un suspect, c'est une chose. Démontrer sa culpabilité, établir de manière certaine que le suspect est bien l'auteur des faits, dépasser les seules apparences, ça c'est autre chose. Cette histoire commence dans l'est de la France, dans le département de la Haute-Marne. Nous sommes en 1935, dans la France de l'entre-deux-guerres. À Chaumont, entre Nancy et Dijon. Chaumont est ce qu'on appelle une petite ville de province. La ville compte alors un peu moins de 20 000 habitants. C'est une jolie petite ville, coquette, paisible, entourée par la Marne à l'est et par la Suise à l'ouest, un affluent de la Marne. Nous sommes le 19 avril, au bord de la vallée de la Suise, c'est un vendredi, dans un quartier pavillonnaire, loin du centre-ville, contre le bois, tout contre le bois de Saint-Roch qui descend vers la rivière. Les Marescots habitent l'un de ces pavillons. Le colonel Marescot du Tilleul, un militaire de carrière, il est à la tête d'un bataillon du 21e régiment d'infanterie. Et sa femme et leurs enfants, Nicole, la dernière, joue dans le jardin. Il est 15h, peut-être 15h30. L'une de ses sœurs vient la chercher. Ce vendredi 19 avril, c'est le vendredi de Pâques, le vendredi saint. Alors il faut se préparer pour la messe, s'apprêter. Mais Nicole n'est pas là. Alors on l'appelle, elle ne répond pas. Elle devrait jouer dans le jardin, mais elle n'est pas là. Sa mère l'appelle, sa mère, puis son père. Le père... Le colonel Marescot réagit, sans tarder. Il garde son sang-froid. Il interpelle les voisins. Sa femme appelle la police. Mais le temps passe. Ils sont gagnés par l'inquiétude. Les voisins sortent et cherchent eux aussi. Autour de la maison et puis plus loin. Mais il n'y a toujours rien. L'inquiétude fait place à l'angoisse. La police arrive. Et les gendarmes, les voilà. Mais combien sont-ils à chercher, à fouiller, à ratisser, à appeler? Ils sont des dizaines. Et ils sont de plus en plus policiers, gendarmes et tous ceux des environs qui donnent un coup de main. Voilà plus de 2 heures que les recherches ont commencé. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rien. Sauf... Deux gendarmes qui sont tombés sur quelqu'un. Il avait l'air de se promener, alors ils l'ont interrogé. Et oui, ils l'ont reconnu.
« Oh, c'était Soclet, celui qui est sorti de Dijon il y a 2 mois. »
Et là, ils veulent parler de Gabriel Soclet. C'est un repris de justice, comme on dit. Condamné pour le braquage d'une pharmacie. Il a fait 8 ans à la prison de Dijon et il vient d'en sortir.
Marisco, le colonel Marisco. Il sourcille. Plus que ça, il a bien envie de leur hurler dessus aux deux gendarmes. Mais il parvient à se retenir, à retenir sa fureur.
Ah, et vous l'avez laissé partir.
Tout peut être bon à prendre, non? Un homme qui passe, un repris de justice en plus. Mais quelle raison pouvait-il avoir de le soupçonner? Et le soupçonner de quoi? Le soupçonner parce qu'il sort de prison? Pour un braquage? Marisco se maîtrise. Il faut avancer. Et il faut faire vite, parce que le temps presse. À quelle heure se couche le soleil? Vers 20h30. Après, on n'y verra plus rien. Il faut donc la retrouver avant Nicole. Mais voilà qu'un homme s'approche. C'est un conseiller municipal.
Je peux peut-être vous aider, j'ai peut-être vu votre fille.
Il ne la connaît pas, Nicole. Non, il ne la connaît pas. Mais il a vu un homme accompagné d'une fillette. Elle correspond au signalement de Nicole Marisco. Robe rouge, cheveux blonds. Le conseiller, il indique une maison, sa maison, là-bas, et son jardin, et un chemin qui longe son jardin et s'enfonce dans les bois. Le chemin du Val-Anne-Marie, qui descend vers le bois de Saint-Roch, qui descend vers la Suise, la rivière. Là où il y a un petit pont. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu au loin, à 30 ou 40 mètres peut-être, un homme, jeune, avec un costume gris, les cheveux blonds. Mais il hésite.
Mais il portait un béret, donc.
Et la fille? Pas plus de 5 ans, certainement pas. Blonde, robe rouge. Marisco le prise de question et le conseiller complète. Derrière, quelques pas derrière eux, il y avait un autre homme.
Oh, avec un complet beige, si je me souviens bien, et des culottes de golf.
Le bois de Saint-Roch, les bords de la Suise, le petit pont, la passerelle. Ils y sont passés, bien sûr. Bien sûr qu'ils y sont passés. Ils se remettent en marche, ils y repassent encore. La battue reprend. Une nouvelle battue. Ce sera sans doute la dernière. Le soir tombe. Bientôt, on n'y verra plus. Oui, la nuit tombe et il n'y a toujours rien. Les policiers se retirent, les gendarmes aussi, ainsi que ceux qui ont donné un coup de main. Tout le monde rentre, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Enfin presque tout le monde. Il y a encore quelques voisins autour des Marisco, des amis, les tout proches, pour les rassurer, les apaiser, essayer et continuer. Ceux qui veulent bien. Marisco veut continuer, encore. S'arrêter? Arrêter les recherches? Le colonel ne peut pas. Non. Quoi? Il rentrerait chez lui? Il irait se coucher? Non. Mais non, bien sûr que non. Il va prendre une lampe torche et y retourner avec ceux qui veulent bien. Il y a une idée qui fuse. Une voisine qui croit pouvoir apporter quelque chose.
Excusez-moi, vous avez pensé aux Romanichels, colonel?
Les Romanichels, comme on les appelle parfois. Comme on les appelait. Les Tziganes, les gens du voyage. Leurs roulottes, ils voyagent encore en roulotte, sont installées à la sortie de la ville, vers ce Moutier. On dit des choses sur ces gens-là, non? Est-ce qu'on ne dit pas qu'ils volent les enfants, les Roms? Oui, ça fait des siècles qu'on le dit. Elle est tenace, cette rumeur-là. Et bien sûr que certains y pensent. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller regarder de ce côté-là? Nous sommes le lendemain, le 20 avril 1935. Le jour se lève à peine. Ils vont pouvoir se remettre en route, reprendre les recherches, trouver Nicole. Mais ce n'est pas comme hier, non. La panique et la précipitation semblent avoir cédé la place à autre chose. On dirait qu'on est sur un champ de bataille et que l'ennemi, ce sont les kilomètres à explorer, à fouiller. Les gendarmes ont établi un QG dans une maison voisine, comme un QG de campagne, comme une armée en guerre. Et ça le rassure, ça, Marisco. Il s'approche, il y a un commandant de gendarmerie.
Il est penché sur une carte. Ils sont plusieurs, des gendarmes, des civils. Le commandant lui fait signe d'approcher.
Nous allons étendre nos recherches, colonel.
Ah oui, il allait oublier. Il pointe le doigt sur la route de ce moutier.
J'ai envoyé une brigade au camp des Romanichel.
Les Romanichel et le reste. Les recherches vont s'étendre bien plus loin, au-delà de Chaumont, des dizaines de kilomètres au-delà de Chaumont. Le commandant se tourne vers deux hommes en civil à ses côtés. Un homme imposant, en imperméable, en train de fumer la pipe, et un autre plus mince, plus discret, plus jeune aussi. Il porte des lunettes.
Colonel Maresco, je vous présente le commissaire Perruche de la brigade mobile de Dijon et l'inspecteur Rollo. Ils vont passer quelques jours à Chaumont. Et je vous le garantis, on va la retrouver, cette petite.
Le commissaire Perruche engage la conversation avec le colonel. Et puis soudain, il ne s'entend plus. Il relève la tête et dans le ciel, on entend le vrombissement d'un moteur. C'est un avion qui approche. Il fait une reconnaissance aérienne. Une fois l'appareil éloigné, le commissaire Perruche engage la conversation avec le père de la disparue.
« Colonel Maresco, est-ce que vous avez relevé votre courrier hier soir ou ce matin ?»«
Non, non, enfin peut-être. Enfin pas lui, mais sans doute sa femme.
Est-ce qu'il n'a pas reçu une lettre d'un inconnu ? Une demande de rançon ou un coup de téléphone ?» Perruche explique.
« Je sais que c'est une chose que nous ne connaissons pas ici, peut-être, mais ce qui se passe en Amérique a tout fait de gagner l'Europe. »
Le commissaire fait allusion à quelque chose que tout le monde connaît. L'enlèvement du petit Lindbergh. L'enlèvement du fils de Charles Lindbergh, qui avait eu lieu 3 ans plus tôt. Lindbergh, le célèbre aviateur américain, le premier à avoir réussi la traversée de l'Atlantique. Maresco hausse les épaules.
Une rançon. Mais qui irait enlever la fille d'un militaire, commissaire ? Je ne suis pas banquier et je ne suis pas Lindbergh.
C'est pour vous, mon commandant.
C'est un gendarme.
Mon commandant, les Romano, les Romanichel, on a quelque chose.
La brigade revient du camp des gens du voyage. Sur la route de ce moutier, ils ont ramené quelque chose et quelqu'un. Enfin quelqu'un. Un couple. Ce qu'ils ont trouvé, dans l'une des roulottes, dans leur roulotte, un mouchoir.
Avec des initiales. N.M., mon commandant.
N.M. pour Nicole Maresco. Le commandant raccroche et se tourne vers Perruche.
Je fais amener les deux suspects, commissaire.
Et Perruche doit rajouter.
Oui, et faites venir Madame Maresco aussi, au plus vite.
Perruche et Rollo ont installé leur bureau dans la mairie de Chaumont, pas loin de leur hôtel. Le commissaire Perruche regarde sa montre. Le temps presse. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la petite ? Et où est-elle ? Ils vont les interroger. L'homme, la femme. L'un, puis l'autre. Ils vont devoir les presser. User de ruses. De menaces peut-être aussi. Parce que le temps presse. La mère, Madame Maresco, elle reconnaît le mouchoir. Oui, elle le reconnaît. C'est elle. C'est elle qui a brodé les initiales. Ce N, ce M, alors. Et les deux Roms qui ont été arrêtés, amenés à la mairie, ils résistent. Ils sont raides. Ils se taisent. Oh, la police, ils connaissent. Et ils s'en méfient. Finalement, l'homme lâche quelques mots. Le mouchoir, ils l'ont trouvé. Ou pas dans la forêt. Pas dans le bois de Saint-Roch, non, ou près de la Suisse, à Chaumont, par terre. Par terre ? Ça n'est pas un peu simple, ça ?
Oui.
Ça le laisse sceptique, le commissaire Perruche.
Rollo, il va falloir me fouiller tout le campement des bohémiens, d'accord ? Chaque mètre, chaque centimètre, et autour.
Et puis c'est le soir qui vient. Déjà, les deux tziganes, on les gardera pour la nuit. Ils recherchent. Il va falloir les arrêter. C'est fini, pour l'instant.
Pour tout le monde. Ou presque tout le monde. Sauf pour Maresco, le père, qui arpente encore le bois de Saint-Roch. Il pleut encore, ça ne s'est pas arrêté. Le ciel, les nuages ne se reposent pas. Le colonel s'est remis en marche, avec une lampe torche, accompagné de quelques-uns, des plus proches encore. Et sa femme, Madame Maresco, elle attend à la fenêtre. Elle est comme pétrifiée. Elle n'en finit pas d'attendre.
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle d'une histoire particulièrement douloureuse. La disparition d'un enfant dans la petite ville de Chaumont en 1935. Gendarmes, policiers, voisins, amis, tout le monde se met à sa recherche. Deux gendarmes ont croisé un homme dans les alentours. Il s'appelle Soclet. C'est un repris de justice. Et chez un couple de Romain Michel, on a retrouvé un mouchoir brodé aux initiales de l'enfant. Mais l'homme, la femme, ils se taisent. Nous sommes dans une France en crise, après le krach de 1929. Les gouvernements se succèdent pour essayer de faire face à la crise économique, pour faire face aux problèmes sociaux. Nous sommes dans une Europe en crise. L'Allemagne se réarme, le nazisme s'affirme et le fascisme. Les tensions sont là et elles ne cessent de croître. Elles traversent la population, toute la population, à Chaumont aussi. Même si tout le monde paraît uni en ce mois d'avril 1935, aux côtés des Maresco. Mais quelque chose est en train de se passer. Le travail de la mémoire, la succession des événements, des jours passés qui s'entrechoquent, qui se ferait à nouveau un chemin parmi les souvenirs. Cette nuit-là, la première depuis la disparition de la petite Nicole, le conseiller municipal est rentré chez lui. Avec sa femme, ils n'ont parlé que de ça. Ensuite, il est allé se coucher. Il se dit, tout est étrangement calme, terriblement calme. Il essaye de s'endormir, mais il n'y parvient pas. Il revoit cet homme, un grand jeune homme, derrière son jardin, avec la petite fille en rouge. Et voilà que ça lui revient. Il se redresse, il réveille sa femme. Quel calme! Cette soirée sans un bruit, il n'y a pas la moto ce soir. C'est ça? Oui, c'est ça, ils n'ont pas entendu la moto, le gars qui fait le malin dans la rue, jusque tard la nuit. Mais bien sûr, le gars qui descendait avec la petite, mais c'est le gars, le garçon de la moto! Tout le monde n'a pas une moto en 1935. Non, il avait l'air fier. Il avait l'air neuf, son engin. Alors oui, quelque chose est en train de se passer. Ça vient du cheminement étrange des souvenirs, du travail de la mémoire. Et ça pourrait bien faire avancer les choses. Nous sommes près du bois de Saint-Roch, là où la gendarmerie a établi son QG. Il est 9h à peu près. Le commissaire Perruche, comme tous les matins, vient au renseignement. Il pleut, ça ne s'est pas arrêté. Perruche enjambe les flaques. Il y a de l'eau sale et de la boue partout. Il est nerveux. Et quand il est nerveux, comme maintenant, eh bien ça fume. Il tire sur sa pipe et ça n'arrête pas de fumer. Si bien que ça incommode tout le monde. Et à commencer par le commandant de la gendarmerie.
Oh, dites donc, ça commence à bien faire, commissaire. Et l'inspecteur Rollo, il n'est pas avec vous?
Justement, il l'attend, Rollo. Enfin, il attend de ses nouvelles. Ils ont recueilli le témoignage du conseiller au petit matin, puis Perruche a envoyé Rollo chez tous les garagistes de Chaumont. Lorsqu'ils auront le bon garagiste, celui qui a vendu la moto, ils auront le nom de celui qui l'a acheté, sauf s'il ne l'a pas acheté à Chaumont. Mais qu'importe, Ils feront tout le département s'il le faut.
Commissaire, commissaire, c'est pour vous.
La conversation a été brève. Le commissaire Perruche quitte aussitôt le QG. Il va retrouver Rollo dans leur bureau pour faire le point. Perruche arrive à la mairie. Il enlève son imperméable. Il s'assied. Il s'installe. Il glisse ses pieds sous le radiateur. Il grommelle quelque chose. Non, non, il n'est pas de bonne humeur, le commissaire. Il finit par retirer ses chaussures, puis ses chaussettes.
J'aurais dû emmener mes bottes. Ma femme me l'avait dit que je devais emmener mes bottes.
Et puis il a un regard pour l'inspecteur.
Bien alors, Rollo. Donc,
eh bien la moto, elle a été achetée par... Gabriel Soclet, commissaire. Gabriel Soclet est arrêté quelques heures plus tard dans un café. Il est cueilli discrètement. Enfin discrètement, comme on peut l'être dans une petite ville comme Chaumont. Il est emmené à la mairie. On va l'interroger. L'annonce de son arrestation se répand. Et voilà que le téléphone sonne et que des témoignages arrivent. Oh, pas beaucoup. Deux ou trois. Des enfants. Soclet leur a proposé des bonbons. Rollo a l'air satisfait. Le commissaire le ramène à la raison.
Des témoignages d'enfants, Rollo, c'est bien. Mais il en faut un petit peu plus.
Perruche, Rollo, à tour de rôle, il l'interroge. Et encore. Mais Soclet ne dit rien. Enfin si. Qu'il ne la connaît pas, Nicole Maresco. Ils vont l'interroger. Encore, il le faut. Il le faut parce que le temps presse. Ils y passeront la nuit. Oui, 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 ils y passent la nuit. Mais Soclet ne lâche rien. Rien. Il nie, il répète qu'il est innocent.
Et que faisiez-vous l'après-midi du 19 avril ?
Il est resté en ville jusqu'à 18 heures, dit-il. Mais il ne peut donner aucun nom, personne, pour confirmer son alibi. C'est sûr, ça ne va pas l'aider, non. Mais est-ce que pour autant, il y a de quoi en faire un accusé ? Qu'est-ce qu'il y a contre lui, à part le témoignage d'un conseiller ? Un jeune homme qui lui ressemble, avec la petite fille en rouge, qu'il a aperçu à bonne distance. Un médecin légiste arrive pour l'examiner. Le médecin légiste, il affirme qu'il n'y a pas la moindre trace sur son corps. Pas de trace d'une égratignure, de lutte ou quelque chose qui pourrait établir un contact, quel qu'il soit, avec Nicole Maresco. Ni trace d'égratignure, ni sang, ni rien. Et chez lui, rien. Rien, pas un vêtement suspect, taché de boue ou de sang, non, rien. Le jour vient, Perruche veut se bourrer une dernière pipe, encore une, pour réfléchir, faire le point. Mais son paquet de tabac est vide. La nuit est passée et ils n'ont rien de plus. Oh, tout le monde aimerait que ce soit plus simple, bien sûr, et que ça aille plus vite, mais parfois c'est comme ça. On est embourbé malgré les efforts, malgré tout ce qu'on peut mobiliser, comme homme et comme moyen. Et ça s'embourbe encore. Une maman se présente aux enquêteurs, accompagnée de sa fille, à la mairie. Elle vient pourquoi ?
Monsieur le commissaire, le mouchoir de la petite Maresco.
Elle raconte que sa fille va à la petite école du quartier. La même école que la petite Maresco. Nicole lui a donné un mouchoir, mais elle l'a perdu. Il y a plus de 15 jours au moins.
Oh, elle n'aurait sans doute pas dû lui donner ce mouchoir, mais...
Le commissaire Perruche la remercie. Et voilà. Et voilà, c'est une piste qui se referme. Tant mieux, peut-être. Le commissaire accompagne les Romanichel. Il les remercie. Ils se sont lassés. Mais 3 jours ont passé. 3 jours sans nouvelles. Alors, ce sont d'autres recherches qui se sont organisées. Des recherches avec moins d'espérance. Oui, on a fait venir un plongeur pour explorer la Suisse. Il remonte, il replonge, et puis ce sera autour de la Marne. Perruche et Rollo sont arrivés. Il reste un moment, et puis ils vont regagner Chaumont, leur bureau à la mairie. Soudain, Perruche s'immobilise. Il a le regard comme attiré vers un groupe, plusieurs personnes. des civils. On dirait qu'ils suivent un homme en soutane, coiffé d'un béret. Perruche prend le bras de l'inspecteur.
Rollo, je rêve ou c'est un curé là-bas?
Un radiesthésiste, commissaire, pas un curé. L'homme tient devant lui, dans la main, entre le pouce et l'index, un pendule. Il a l'air de se laisser guider. Il s'arrête, il hésite. Il reprend sa marche, entre les arbres, entre les branches du bois de Saint-Roch. La mère Maresco, la colonelle, elle a fait appel à un curé de la région.
Eh bien, si j'ai bien compris, commissaire, le pendule serait sensible au magnétisme humain.
Le commissaire Perruche lève les sourcils. Puis il plisse les yeux. Ça a l'air de le rendre sceptique, tout ça. Mais Rollo a l'air de vouloir rajouter quelque chose. Comme si, enfin, comme s'il cherchait la meilleure façon.
Oui, et puis... Puis il n'y a pas que le pendule, commissaire.
Perruche s'attend au pire. Rollo confirme. Maresco, le père,
eh bien, il a appelé un privé, un détective de Genève, un type avec des chiens.
Ce type de Genève, avec des chiens, il s'appelle Paul Rochat. Dans son domaine, c'est une célébrité. Et pas que lui. Lui et ses chiens. Enfin, surtout sa chienne, Zita. Retrouver, c'est son affaire. Il a sauvé des vies, Rochat, avec ses chiens. Il en a retrouvé des vivants. Et des morts aussi. En montagne surtout, à Chamonix et ailleurs.
Un radiesthésiste, un détective privé des chiens. Rien à faire, nous sommes dépassés, mon bon Rollo.
La Momière.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle de l'enlèvement de la petite Nicole Maresco en 1935. Trois jours ont passé, déjà, et l'espoir s'amenuise. Les pistes s'ouvrent, puis se referment. Et voilà qu'un détective privé intervient. Il arrive à Chaumont, accompagné de ses chiens. Il va les lancer sur la piste de Nicole, la petite Maresco. Le temps passe. Le temps presse. Il faut faire vite. Nous sommes le 22 avril 1935, tout le matin, au lever du jour. Le détective Rochat est là avec ses chiens, deux bergers allemands. Ils sont fébriles. Il n'a pas l'air heureux, Rochat. Il a l'air contrarié. Il faut dire que il y a du monde. Il y a le colonel Maresco, bien sûr. Le commissaire Perruche en est aussi, et Rollo, et les gendarmes. Et il y a des curieux. Il en arrive encore. Ils veulent voir. Ils y croient, évidemment. Comment ne pas y croire? Comment ne pas avoir envie d'y croire? Avec ses chiens, il va retrouver la trace de la petite. Vivante, peut-être. La mère Maresco lui a confié un linge, un vêtement de Nicole. Peut-être que ça fera la différence. Oui, là, les chiens s'élancent à toute vitesse. Rochat peine à les retenir. On dirait qu'ils savent où ils vont. Ils filent, droit, derrière chez le conseiller, par le chemin du Val Anne-Marie, puis dans le bois de Saint-Roch. Mais il y a trop de bruit, trop de monde. Rochat perd patience. Il exige que les curieux restent à distance. Les gendarmes les retiennent. Voilà. Voilà, les chiens traversent le petit pont, la passerelle. Ils avancent au même rythme. Leur odorat ne les trompe pas, bien sûr. On se dit qu'ils vont trouver quelque chose. Oui, les curieux sont là, oui, tout près, toujours, mais en silence. On retient son souffle. Où vont-ils? Après le pont, le sentier arrive à la route de Semoutier. Mais voilà qu'on dirait que les chiens sont fébriles. Ils tournent, ils piétinent, ils cherchent. Ils ont l'air perturbés, comme s'il n'y avait plus de certitude. Rochat passe le linge sur leur museau. Ils s'agitent, tournent sur eux-mêmes, ils reviennent chez Rochat et, oui, on dirait que ça s'arrête là, qu'il n'y a plus de piste. Le silence est devenu pesant. Le père Maresco est soucieux. Le regard du détective se perd sur la route qui file dans la forêt. C'est fini, on dirait. Oui. Oui, ça s'arrête ici. Rocha désigne ses chiens. Non, ils ne vont pas plus loin. Elle a été amenée ici. Elle a été emmenée. On a dû la faire monter dans une voiture. Perruche sort son tabac et bourre sa pipe, lentement. Il tasse son tabac, puis frotte une allumette. Tire plusieurs bouffées, puissantes. Soclé, il aurait amené la petite ici, l'aurait laissée à un ou des complices, puis regagné le bois. Il est repassé par le bord de la Suisse, là où les gendarmes l'ont croisé. Et voilà que brusquement, Perruche repense au témoignage du conseiller. Il a vu un homme avec une fille en rouge. Et quelques pas derrière, il avait parlé d'un homme en complet beige, en culotte de golf. Un complice ? Et si c'était un de ses complices, qu'est-ce qu'il est devenu, l'homme au complet beige ? Ils vont reprendre leur marche vers Chaumont, perdus dans leurs pensées. Et Maresco, le colonel, dans ses tourments, et la douleur de sa femme qui l'attend. Elle l'attendra à la fenêtre, comme tous les jours. Perruche et Rollo poursuivent à pied jusqu'à leur hôtel. Ils sont trempés jusqu'aux os. Mais peu importe. Perruche fume. Il tire sur sa pipe. Distraitement, il est ailleurs, préoccupé. Il réfléchit.
« Elle est peut-être loin d'ici, Rollo. Il va falloir diffuser sa photographie au plus vite et transmettre aux pays voisins. »
On cherche encore. Chercher, oui. Mais où chercher ? Est-ce que la lassitude ne gagne pas peu à peu les policiers, les gendarmes ? On cherche encore parce qu'il le faut. Le commissaire Perruche et l'inspecteur Rollo sont toujours là, fidèles à leur poste. Même s'ils n'y croient plus vraiment. Soclé nie toujours. Nous sommes le matin du 23 avril, vers 8 heures. Perruche et Rollo arrivent à la mairie. Ils rejoignent leur bureau à temps, car le téléphone sonne. Rollo décroche. C'est le détective Rocha. C'est Rocha, et c'est un coup de théâtre. Ce qu'on n'attendait plus. Voilà que les Maresco ont trouvé une lettre ce matin dans leur boîte aux lettres. Le commissaire, il est fébrile, pour une fois. Lui qui garde son sang-froid, toujours.
« Une demande de rançon, j'imagine »
demande-t-il. Ce n'est pas exactement ça. L'auteur, il écrit que leur fille, que Nicole, leur sera rendue incessamment, au plus vite, et qu'il écrit « par repentir, dans l'espoir d'être pardonné ». Mais il y a mieux. Enfin, il y a plus. Ils sont plusieurs. Et manifestement, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ce qui complique un peu les choses.
Attendez, commissaire, c'est pas fini. Il veut passer par moi. Il vient de me fixer rendez-vous à Chambéry. La petite sera à Chambéry. J'ai rendez-vous à l'hôtel Terminus. Et j'ai pensé que j'allais vous accompagner. Ou alors l'inspecteur Rollo. C'est exactement ça, Rocha.
Dans sa lettre, il insiste pourtant. Rocha, le détective. Pas la police, sinon elle ne vous sera pas rendue.
Rollo se fera passer pour votre assistant. Il fera ça très bien, hein, Rollo.
Nous sommes le 25 avril, 6 jours après la disparition. Paul Rocha, le détective, est à Chambéry. Il est avec Rollo et ses chiens. Ils suivent les instructions, mais à l'hôtel Terminus, il n'y a personne. Rocha questionne le réceptionniste.
Il est parti hier, mais par contre, il y a un télégramme pour vous.
L'homme, celui de la lettre, ses complices ne sont peut-être pas du même avis que lui. Est-ce qu'ils veulent rendre l'enfant, eux ? Impossible, Chambéry, stop. Danger, stop. Rendez-vous Genève, hôtel du lac, demain, 9h, stop. Genève, le lendemain, 9h ? Bon. Qu'à cela ne tienne, ils partent pour Genève. Rendez-vous à l'hôtel du lac. Le télégramme précise encore « Venez seul ». Alors Rocha se rend seul au rendez-vous. Et il le rencontre enfin, l'homme. Il a l'air affairé, fébrile.
« Je suis désolé, désolé.
Il dit qu'il a laissé les autres. Ils sont partis avec la petite. Je n'ai rien pu faire, je suis désolé. Quelques heures plus tard, Rocha est de retour. Il fait son rapport à l'inspecteur Rollo. Le détective reprend fidèlement chaque détail de l'entrevue. Rollo commence à douter.
Il n'est pas très clair, votre type, non?
Ce n'est pas mon type, inspecteur.
Et je fais avec ce que j'ai. Vous devriez faire comme moi. Vous n'avez pas vraiment mieux, non? Avec votre soclé.
L'homme, l'auteur de la lettre, est arrêté 2 jours plus tard, à la frontière franco-belge. Et il passe aux aveux. Oh, pas les aveux qu'on espère, non. Non, il a inventé une histoire, il a inventé des complices. Il voulait soutirer de l'argent au Maresco. Rocha et Rollo, ils ont été au bout. Ils reprennent la route sans un mot. Cette fois, c'est fini. Direction la Haute-Marne. Direction Chaumont. Le commissaire accueille Rollo avec le sourire. Oui, enfin, un sourire goguenard.
Alors, inspecteur, cette excursion, vous avez vu du pays au moins.
Plus de 10 jours ont passé. Oui, et on n'a rien trouvé. Pas la moindre trace de Nicole. Mais Perruche, le commissaire, il n'a pas perdu son temps. Il a presque l'air guilloré, le commissaire, ce matin-là. Est-ce que c'est parce qu'il s'est enfin arrêté de pleuvoir? Oh non. Non, il y a du nouveau. Oh, bah, pas de l'extraordinaire, non. Mais du nouveau.
J'ai eu Paris, le 36. Ils m'ont sorti la fiche de Soclé.
Rollo attend. Le commissaire se laisse désirer.
Il a été condamné pour vol à main armée. Ça, on le savait. Il n'y a pas que ça, Rollo.
Il y a sa condamnation pour attaque à main armée, oui. Les 8 ans qu'il a fait à la prison de Dijon. Mais il y a autre chose.
Il va falloir faire avec un attentat à la pudeur dont il a été acquitté. Tout ça, ce sera fragile devant un jury, Rollo.
Les jours ont passé, puis des semaines. Et voilà que les semaines succèdent aux semaines et que des mois ont passé depuis la disparition. Depuis ce jour d'avril, ce vendredi 19 avril 1935. Nous sommes à la fin du mois d'octobre, au lieu-dit Les Combes, à 2 kilomètres de Chaumont, pas plus. Un jeune gars laboure son champ. Ça se fait toujours avec les chevaux, le labour. Et ils ont bien travaillé. Il les fait reposer et il s'éloigne, il fait quelques pas. Il s'aventure dans le petit bois qui borde le champ, en profite pour aller ramasser les champignons. Et là, sous les branchages, il y a un tas de pierres. Et ça ne lui paraît pas naturel. Il y a quelque chose de rouge, une étoffe rouge, un morceau de tissu rouge. On dirait des vêtements, une robe. Il est pris de frayeur, il s'encourt, il laisse les chevaux, s'encourt vers la ferme, chez lui. Il appelle sa femme, lui crie, il est haletant. Il reprend son souffle. Sa femme, elle enfile en manteau. Elle se précipite, direction le commissariat le plus proche. Est-ce que Soclé va finir par parler? Il ne varie pas. Il nie. Nous sommes au mois de septembre 1936. Soclé comparaît devant les assises de la Haute-Marne. Son avocat, bien sûr, pointe les faiblesses de l'accusation. Est-ce qu'il n'y a pas des étrangetés dans ce dossier douloureux? Oh ben si, bien sûr, bien sûr. L'homme au complet beige, aux culottes de golf. Cet homme qui n'a jamais été identifié, jamais retrouvé. Mais surtout, surtout, comment des policiers, des gendarmes, des hommes par dizaines sont-ils passés à côté du tas de pierres aux combes? Et surtout, comment Rocha et ses chiens ne l'ont pas découvert? Bien sûr, l'avocat interpelle les jurés. Il introduit de l'incertitude, du doute.
Est-ce que le corps de Nicole Maresco n'a pas été enseveli aux combes après les recherches? Après les battues menées par la gendarmerie et par Rocha et ses chiens? Pendant que Gabriel Soclé se morfondait dans sa cellule? Si ce n'est pas Soclé qui a dissimulé le corps de Nicole, alors qui
Faute d'autres suspects, c'est mon client qui est dans le box des accusés aujourd'hui. Messieurs les jurés, le doute doit profiter à Monsieur Soclet.
Mais les jurés de la cour d'assises de la Haute-Marne, après plusieurs heures de délibération, répondent « Oui, coupable, coupable de rapt, coupable d'assassinat, Gabriel Soclet est condamné à mort. »
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Jérôme de Brouwer, vous enseignez l'histoire du droit à l'ULB, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Jérôme, dans cette affaire, il y a la part d'incertitude que laisse subsister l'avocat, le doute qu'il parvient à introduire chez le juré, c'est tout le talent de cet avocat, mais malgré tout, Soclet, il est quand même condamné à mort.
Alors oui, c'est un dossier difficile, un dossier dans lequel il subsiste une part d'incertitude qui est bien exploitée par cet avocat, un avocat de grand talent. Soclet est condamné à mort. Soclet est condamné à mort, mais son avocat se pourvoit en cassation, enfin son client se pourvoit en cassation. L'arrêt est cassé et la cour de cassation renvoie le dossier devant une nouvelle cour d'assises qui, elle, va reconnaître les circonstances atténuantes. C'est bien le talent de l'avocat de Soclet, de Jean-Charles Legrand. Les circonstances atténuantes sont reconnues et Soclet n'est pas condamné à mort cette fois, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Un petit mot sur les moyens déployés, Jérôme.
Oui, ces moyens ont l'air importants. On voit les habitants se mobiliser, la gendarmerie mobilisée, l'armée même, et une reconnaissance aérienne également. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas si bien que le père de la victime fait appel à un détective privé qui est connu pour avoir retrouvé des individus perdus en montagne. Hein. C'est ce détective Paul Rochat qui vient avec ses chiens, et là aussi... il n'y a pas de résultat. Alors, beaucoup de moyens déployés, un appel à l'initiative privée, ça ne suffit pas. On dirait que la recherche d'individus disparus n'est pas encore pleinement entrée dans les missions de la police en réalité et que donc elle ne dispose pas des moyens nécessaires.
Merci Jérôme pour cet éclairage et à très vite, à la même adresse, 36 Quai des Orfèvres.
La première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.